Aurélie Sfez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Fort Calquier. Hier, nous étions avec Antoine Lee à Cherbourg, dans la Manche, et aujourd'hui, on est ici, en Provence, bien installé au café La Parenthèse, en plein milieu du marché de Fort Calquier. Fort Calquier, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Ça résonne comme des clochettes chaque été. On m'a dit « tu n'as pas le choix, tu y vas ». Là-bas, le marché, c'est de la folie. Le pastis bardouin, c'est une tuerie. Franchement, t'as de quoi faire. Entre le carillon, la libraire, le pizzaiolo, les gens, les plantes, les pierres, l'énergie qu'il y a ici, t'as pas idée. Vendu, j'ai dit ok pour Fort Calquier et on a posé nos valises sur ce rocher entre les champs de lavande et les Alpes. On se dit que c'est un village capital, ça se sent. C'est ici qu'on s'encanaille, qu'on se cultive, qu'on se rencontre. René Char parle de citadelle de l'amitié. Et nous, on saute du rocher et on plonge dans ce marché comme dans la mer. On se laisse porter. De la place Saint-Michel à la rue Violette, de la place du Bourguet à la rue Grande, c'est un labyrinthe alambiqué. On pousse des portes, on croise des coins secrets. Il paraît même qu'on s'échange des recettes de potions magiques dans les coursives de Fort Calquier. Bonjour Olivier Bossan.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes fondateur de l'Occitane. Et pour vous, tout a commencé ici, sur ce marché, avec des potions magiques.
Avec des huiles essentielles, effectivement, que j'avais distillées, que je vendais sur le marché de Fort Calquier.
Vous êtes avec nous aussi. Bonjour Mario Bruot. Vous êtes la libraire de Fort Calquier. Vous tenez la librairie La Carline. C'est juste derrière. Et on m'a dit, ici, c'est une institution, La Carline.
Oui, c'est une institution. Bonjour. C'est pas moi qui l'ai créée, donc je peux d'autant plus dire que c'est une institution. Et puis, je suis pas la seule. On est trois libraires associés et je tiens beaucoup à ce travail d'équipe.
Bonjour Raphaël Imbert.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes saxophoniste et directeur du Conservatoire de Marseille. Fort Calquier, vous me l'avez dit, c'est votre village de cœur.
Oui, c'est mon village de cœur et j'ai d'autant plus d'émotion à le dire que je n'y suis plus de par mes nouvelles fonctions et ma nouvelle vie. Et vous m'offrez l'occasion d'un vrai retour aux sources et c'est assez merveilleux, merci.
Maria, bonjour.
Bonjour.
Vous tenez La Parenthèse ici, La Parenthèse enchantée.
Oui, effectivement, ça fait 2 ans qu'on a repris donc, ce lieu. Là, je suis en train de faire des jubiaux frais.
Et vous avez un petit accent.
Je suis autrichienne. Ça fait 20 ans que je vis en France. Donc avec Mag, on tient donc La Parenthèse avec joie. Et je pense que c'est... On a créé un lieu, oui, de rencontre.
Comment vous avez atterri ici, Maria?
Bon, je ne veux pas te raconter tout le parcours. Écoute, en Autriche, déjà, on avait des gîtes, c'est vrai. Et je dirais que c'est quand même un des métiers les plus durs, hein, je l'avoue. Parce que j'ai... plusieurs métiers, on va dire. Donc, je filtre de l'air en France et je fais aussi tout ce qui est revitalisation.
Et la filtrer l'air, je comprends pas.
Je filtre l'air. Je purifie l'air avec de l'argile. Ça, c'est un métier que j'ai pas non plus appris. Mon vrai métier, c'est prof de sport et de français. Ah, c'est oui. Ce que j'ai appris.
D'après vous, Maria, est-ce que l'air est pur à Fort Calquier? Est-ce qu'on a un bon air ici?
Il y a un excellent air, un excellent endroit et il y a quelque chose de particulier, je trouve, à Fort Calquier.
C'est le ciel le plus pur d'Europe. C'est là que se sont installés les observatoires, justement, pour regarder...
Oui, c'est vrai, il y a le grand observatoire là-haut.
Tout à fait, à Saint-Michel, qui est juste à côté.
Écoutez, on est bien au marché de Fort Calquier, ensemble sur France Inter, avec nos invités installés à la terrasse. On va se cultiver, ici, sur ce territoire de Provence. Mais d'abord, on va écouter un petit air de musique, justement. Raphaël Imbert, c'est votre domaine, la musique. Je vous laisse lancer le disque. Vous savez lancer les disques en l'air, comme ça?
Ah ouais, je sais très bien lancer les disques. Mon record, c'est 27,56 m. Aurélie, encore faut-il savoir de quel disque il s'agit.
Donnez tout de suite.
Chers auditeurs, nous allons écouter The Liminanas et Laurent Garnier sur le titre Soul. Et c'est le choix de Chewbacca.
Ça vous fait plaisir de le dire?
Ah oui, quand même. Je le salue au passage.
Il s'agit d'un petit mec de Provence. Il aime la musique et le cinéma. Thank you.
Vous êtes toujours sur France Inter, ici au marché de Fort-Calquier, aux portes du Luberon. Et on est ici, à la terrasse de la Parenthèse, sur la place Saint-Michel, dans les hauteurs de Fort-Calquier, dans la vieille ville. C'est jour de marché, sur un air de jazz manouche, il y a un monsieur qui est assis là-bas, au milieu des fromages, des saucissons. Il est énorme ce marché, Olivier Bossan.
Effectivement, c'est depuis le Moyen-Âge, c'est un des marchés les plus connus de toute la Provence.
Il paraît qu'il a 1000 ans.
Oui, 1000 ans. C'est quand même extraordinaire.
On plonge dans ce marché, c'est vrai qu'il s'étale partout dans les ruelles, jusqu'en bas.
Oui, en fait, il y a des bouchers ambulants, des gens qui font du cuir, du macramé. Quand j'ai commencé, moi, il y a 45 ans, il y avait une dame qui faisait du macramé. Elle y est toujours avec sa deux chevaux. Je la salue d'ailleurs tellement elle m'impressionne de cette constance depuis 46 ans au même endroit devant l'église.
Olivier Bossan, quand vous avez commencé ici sur ce marché. Votre histoire, c'est une histoire incroyable. C'est une success story. Vous êtes le fondateur de la marque L'Occitane. Et vous m'avez dit, je vais rester un peu discret dans le marché parce que si je déambule avec vous et si je me balade, tout le monde va m'arrêter tout le temps. J'aime bien rester dans mon coin. Vous, vous avez commencé ici, tout jeune. Et en plus, vous êtes resté dans votre village.
Oui, moi en fait, j'ai fait des études de littérature, donc très loin des huiles essentielles. Et j'ai choisi la poésie de la nature.
Votre mère était artiste, votre père était journaliste. Et votre père voulait que vous soyez journaliste. C'était pas votre truc. Et puis un jour, vous croisez un paysan qui a un vieil alambic. Et c'est là que tout démarre. Ce vieux monsieur décide de vous apprendre à distiller les plantes, en fait.
C'est exact. Je lui ai racheté son alambic pour la moitié de mon salaire de pion. J'étais pion au lycée et je suis allé ramasser le romarin sauvage et je l'ai distillé avec en refroidissant mon alambic
au bord de la rivière. À cette époque, vous avez quel âge, Olivier ?
J'avais 23 ans. Ça faisait partie d'une époque aussi. Hein,
c'est ça, on est en 1976, quand tout commence pour vous. Vous ne savez pas encore que vous deviendrez le patron de l'Occitane, cette marque que tout le monde connaît et qui s'exporte partout dans le monde aujourd'hui. Vous êtes un rêveur, vous êtes un poète, vous aimez la poésie médiévale, les troubadours, l'Occitanie. C'est pour ça que ça s'appelle l'Occitane aussi.
Oui, c'est pour ça. En fait, c'était un petit peu toute la littérature médiévale occitane avec justement la poésie, l'ode, l'hommage à la femme, l'amour courtois. Et c'est tout ça qui a fait que je voulais l'appeler l'Occitane, un hommage féminin à la femme du Sud.
Elle est comment la femme du Sud ?
Ouverte aux autres. Et justement, c'est des femmes fortes qui décident. C'était le cas de ma mère qui avait décidé d'être artiste et de venir quitter Paris d'abord pour s'occuper des chèvres. Moi, je suis fier de ça, de dire ça à des chevriers aujourd'hui, de dire j'ai été élevé au fromage de chèvre ici, en Haute-Provence.
Et voilà ce que ça donne, un homme à succès.
Ça donne qu'on aime toujours le fromage de chèvre, surtout.
Je pense que ça devrait être appris maintenant dans les écoles de commerce et d'économie et de finance. Il faut élever au lait de chèvre, voilà, c'est ça. Le secret est là en partie, je pense.
Raphaël Imbert, vous êtes à la gauche d'Olivier Bossan. Quel regard vous avez sur le parcours d'Olivier ?
Moi, je remarque plusieurs choses, déjà, depuis que l'émission a commencé, mais il y a plein de choses qui reviennent. Quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie. On parle d'alambic, on parle de rencontres, on parle de potions magiques, on parle d'un petit paradis perdu que tout le monde connaît, mais qui reste préservé quand même, ce qui est quand même un miracle, quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et le parcours d'Olivier, pour moi, il représente tout cela. C'est quand même important de savoir que c'est possible, parce qu'il y a quand même on est un de ces départements très peu peuplés, on se bat un petit peu tous les jours pour essayer d'exister. Et ben quand ça va pas trop, on pense à Olivier. Pour moi, ça a toujours été très important.
Vous êtes autodidacte, vous avez étudié les plantes, vous avez appris la botanique tout seul, la distillation, tout ça dans des vieux livres de recettes de grand-mère. On appelle à la vente l'or bleu ici.
Oui, mais qui est menacé. Je suis très impliqué depuis 10 ans dans le fonds de sauvegarde de la lavande en Provence.
Elle est menacée par quoi ? Par des bestioles ?
La lavande est menacée doublement en fait. Elle est menacée par le réchauffement climatique, déjà aujourd'hui, par un insecte dévastateur qui s'appelle la cicadelle et qui transmet une maladie à la plante qui meurt très très vite.
Olivier Bossan, vous avez vendu vos huiles essentielles ici sur le marché. Comment ça se passait
En fait, oui, je vendais effectivement, j'avais acheté des petites bouteilles de ce qu'on appelle l'alcool à 90, là, le petit flacon qu'on trouve en pharmacie, vide, et je mettais des étiquettes en papier recyclé dessus, des huiles essentielles directement, et petit à petit, j'ai intégré ces huiles essentielles pour fabriquer des produits comme des shampoings, et des premiers clients sont arrivés, comme la droguerie de Fort-Calquier, et qui jouaient le jeu pour recycler. Je voulais recycler les bouteilles, donc j'allais les chez le commerçant qui lui-même demandait à son client de rapporter la bouteille, et je descendais ces bouteilles au recyclage à Marseille pour recycler les bouteilles en verre.
Marie-Aube Ruot, rebonjour.
Rebonjour.
Vous êtes une des libraires de la Carline, oui. La librairie qui est juste derrière la place Saint-Michel ici, et vous aussi vous avez un parcours atypique. Vous avez été juriste,
oui.
Été bibliothécaire en région parisienne. Vous êtes venu ici, pourquoi Fort-Calquier ? Parce que la Carline était à vendre ?
Oui, la Carline n'était pas à vendre, mais la Carline cherchait un nouvel associé.
Et Fort-Calquierin, qu'est-ce qu'ils lisent ? Qu'est-ce que vous vendez ? Qu'est-ce qui marche ?
On vend de tout, c'est ça qui est chouette. Ça m'a pris un peu de temps à m'adapter à la demande ici quand je suis arrivée, parce que je venais d'une librairie extrêmement littéraire à Strasbourg. Mais ça ne m'empêche pas non plus de continuer à mettre en avant des petits éditeurs indés. En fait, on est un département, en tout cas, où il y a un taux de librairie plus important que la moyenne de ce type de territoire très rural, quand même.
Comment ça se fait ? C'est Giono ? C'est peut-être Giono ?
Et déjà avant, j'étais fan de Giono. Mon père était prof de littérature, donc voilà. J'ai vu cette annonce dans un journal professionnel, dans Livre Hebdo. J'avoue que si ça avait été une annonce à Tourcoing, je ne l'aurais peut-être pas donné suite, voilà. Du mal de Tourcoing, mais...
Auditeur de Tourcoing, on vous aime.
Venez à Fort-Calquier.
C'est vrai qu'il y a parfois des gens qui viennent de coins... parce que Fort-Calquier, c'est à la fois une capitale et c'est un village, c'est 5000 habitants.
Donc, comme dit Régiono, c'est un village capital.
Ouais, c'est exactement ça. Et
Michel Berger aussi dit ça.
Ouais, je ne savais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés de voir une librairie quand même assez grande ici et qui disent, mais chez nous, on est 10 000, 15 000, 20 000 habitants et on n'a pas de librairie, il faut aller faire 20 km, 30 km.
Tous les trois, ce qui vous relie, Raphaël Imbert, Olivier Bossan, Marie-Aube Ruot, c'est la poésie. Il y a une poésie qui se dégage de Fort-Calquier. Raphaël.
Oui, il y a une poésie évidente, mais dans à peu près tous les domaines, c'est ça qui est assez extraordinaire. Un des livres que j'ai découvert dans la librairie de Marie-Aube, c'est ce magnifique livre sur les bergers poètes et sur tous les textes qu'on a retrouvés dans les lieux de bergerie. Et il y a un aspect aussi qui est intéressant, et on le verra quand on se baladera un petit peu dans la ville et dans le marché, il y a un aspect mystique. C'est le lieu des faits divers les plus étranges, c'est le lieu des apparitions parfois assez étonnantes. On parlait du ciel le plus pur d'Europe, c'est aussi un des endroits d'Europe où on voit le plus d'ovnis. Il y a quand même un aspect mystérieux de la région qui, moi, m'a toujours étonné, intrigué, avec cette présence pourtant scientifique. On a l'observatoire d'un côté, on a les bergers poètes. Pour un artiste, c'est extrêmement inspirant. Et en plus, moi qui ai aussi grandi dans une autre partie de la Provence, qui est le Bouches-du-Rhône, vers Aix-en-Provence et tout ça, on a effectivement des grandes villes de 15 000, de 20 000 habitants, et il n'y a absolument pas ni cette présence culturelle, ni cet appétit. C'est génial, on s'intéresse à tout ici.
On n'a pas le choix, en fait. Si on veut une vie culturelle ici, il faut la faire nous-mêmes. C'est aussi ça, notre force. C'est une fragilité. Disons que c'est une contrainte.
C'est un Éden culturel, mais qui a son histoire aussi. Olivier Bossan, vous avez bien connu Lucien Henry, qui, lui, avait une galerie ici à Fort-Calquier et qui a fait venir des artistes comme Bernard Buffet. On l'appelait Lulu. Vous parliez de faits divers, Raphaël Imbert. Ce pauvre Lulu s'est fait assassiner ici à Fort-Calquier. Lulu, c'est aussi un patrimoine culturel, un nom qui a donné naissance à ce bouillonnement culturel de Fort-Calquier.
Oui, Lulu était un véritable aimant d'artistes. Effectivement, moi j'ai pu rencontrer Bernard Buffet, j'ai pu rencontrer Henri Cartier-Bresson, Louis Pons, plein d'artistes qui venaient ici à Fort-Calquier et qui étaient juste à côté. Donc on avait Lulu, on l'avait aidé à créer à l'époque le Centre d'art contemporain qui est toujours là, à côté d'ailleurs, qui s'appelle Boris Bojnev, qui était un artiste là aussi que Lulu avait découvert, un artiste d'art singulier qui ramassait des croûtes sur les marchés.
Enjoliveur de croûtes.
Fantastique, et dont les œuvres, effectivement, sont rares.
pour nous musiciens, la cave à Lulu, qui est les caves du centre de l'art contemporain, c'est un lieu de vie jazzistique. Ah bah là, il y a une sonorité magnifique. Moi, j'ai fait des séries de concerts là-bas. J'ai même enregistré un disque en live au cave à Lulu, qui pour moi est aussi important que ceux que j'ai enregistrés à New York. Puis hein, quelque chose qui est très touchant pour moi et qui reste très fort ici, c'est ce rapport à la fois à la citadelle et à la nature. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'une urbanité qui date du Moyen-Âge et même plus ancienne. Donc il y a une identité qui est forte, très urbaine. Et puis ce rapport à la nature, vous faites 500 mètres dehors dans la ville, vous êtes dans une nature avec une diversité biologique, botanique, zoologique absolument incroyable. Il y a une diversité à tout point de vue qui est assez étonnante.
Et d'ailleurs, je voudrais rappeler, Olivier parlait de l'antériorité du marché, mais il y a aussi une grande antériorité, peut-être de la même époque, du livre. Des imprimeurs, des typographes, des éditeurs et des éditeurs libraires, parce qu'avant c'était le même métier.
L'art de la reliure même.
La reliure, c'est présent ici depuis le Moyen-Âge aussi.
Ces livres, ils nous racontent, René Char en parle dans Les Feuillets d'Hypnose.
Alors Les Feuillets d'Hypnose, en plus, c'est un livre important parce que c'est là où il parle quand même de sa période de la résistance et de son expérience dans le maquis, quoi. Et donc, assez au début, le feuillet 17... J'ai toujours le cœur content de m'arrêter à Fort Calquier, de prendre un repas chez les Bardouins, de serrer les mains de Marius l'imprimeur et de Figuière. Ce rocher de braves gens est la citadelle de l'amitié. Tout ce qui entrave la lucidité et ralentit la confiance est banni d'ici. Nous nous sommes épousés une fois pour toutes devant l'essentiel.
Est-ce que René Char idéalise Fort Calquier ou est-ce qu'il a tout bon ?
Il a tout bon. En plus, il a perdu beaucoup d'amis pendant cette période. Pour lui, quand il parle de capitale de l'amitié, enfin de la citadelle de l'amitié, c'est vrai qu'il en parle avec d'autant plus d'émotion. Pour lui, c'est un environnement très important.
Moi, je trouve, depuis qu'on est arrivé hier ici, c'est un village qui sonne aussi. Enfin, Raphaël Imbert, je me retourne vers vous parce que j'ai l'impression que c'est un village qui swing. Alors, c'est pas parce qu'il y a monsieur qui joue de la guitare là-bas, du Django Reinhardt ou du jazz manouche à côté, mais quand même, on se fait réveiller par les cloches, ça carillonne, il y a beaucoup de musique, c'est un village qui jazz.
C'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus. Ce qui est clair, c'est que quand on parle de swing, le swing, c'est le balancement. C'est justement la façon de marier les contraires. Et moi, ce qui m'a frappé, tout sonne ici. Les rues, alors ça, c'est quand même une ville du Moyen-Âge, est faite pour sonner. Le carillon est parfaitement placé pour que ça résonne dans le couvent des Cordeliers. C'est pas les mêmes époques, mais c'est quand même génial. Les cloches de la cathédrale, elles sont là pour réveiller l'ensemble du village sans que ce soit agressif. Puis vous avez l'orgue, un des plus beaux cavaille-écoles de Provence, et dans la cathédrale, c'est une merveille absolue. Et en règle générale, quand vous ouvrez bien les portes de la cathédrale, l'orgue remplit à peu près la moitié du village. Donc il y a quelque chose qui se passe de ce point de vue-là.
Ça carillonne à Fort Calquier. On a des clochettes partout et on l'a trouvée, nous, notre fée clochette. Notre fée clochette, elle s'appelle Elisabeth Vasseur. Elle est carillonneuse. On a grimpé dans la citadelle et on a fait sonner ce carillon de Fort Calquier.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
On a une vue incroyable. Sur la montagne de Lure. Vous jouez pour les arbres, vous jouez pour qui ?
Tous les événements de la vie. Baptême, mariage, enterrement. Et c'est bien, parce qu'il y a de l'humain là-dedans, et c'est bien agréable de jouer pour les autres, en fait. La musique, ça se transmet, c'est pas pour soi tout seul. On avait fait une soirée et joué chacun des chansons populaires, donc c'est très sympa. Plaisir d'amour, on avait joué. Voilà, c'est ça. Ne dure qu'un moment, chagrin d'amour. On dirait toute la vie.
On va carillonner.
Allons-y.
Il a quel rôle dans la cité, le carillonneur ?
D'apporter de la joie, parce que par exemple, pendant le confinement, on a eu une dérogation spéciale du maire pour jouer du carillon. On trouvait que ça mettait un peu de gaieté dans la ville.
Allez, on rentre dedans. On sera à l'abri du vent dedans.
Voilà, on joue sur des bâtons, donc en fait, on joue avec les poings. On est sous les cloches ici.
Ça fait pas carillonner dans la tête au bout d'un moment ?
On met un casque. Hein. Ah. Ah oui, non, parce que sinon, le carillonneur devient sourd, hein, c'est bien connu.
Qu'est-ce que vous allez jouer ?
Les Moulins de mon cœur, de Michel Legrand.
Thank you. Merci Elisabeth.
C'était avec grand plaisir.
Moi j'ai quand même l'impression de voir un ange dans une boîte à musique.
Merci pour l'ange. Mais elle est transparente, donc c'est bien.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu. Ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire. À se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre, un signe. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Tu me disais, je t'aime, que ce verbe m'émeut. Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste l'eau de vie de pomme, de prune, de poire. Dans la toile étoilée de l'Auguste Renoir. Un rouge gorge qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, une plume de cygne.
Raphaël Imbert, on vient d'écouter Claude Nougaro qui chantait quoi ?
Le déjeuner sur l'herbe, on y est, on est en plein dedans.
France Inter, rendez-vous place du marché, Aurélie Spez.
C'est parti, on va déambuler.
Ouais, super, allons-y gaiement.
Alors, on est ici, place Saint-Michel, devant la fontaine, et on va où, Raphaël ?
Bah, juste parler de la fontaine, je sais pas si t'as remarqué, un peu, t'as regardé la fontaine un peu ?
Ouais, je l'ai regardé un peu, il y a trois têtes, quatre têtes de lion.
Ouais, mais regarde, entre les têtes de lion, tu trouves, il y a pas un truc qui te paraît étrange ? C'est quand même le truc où tous les gamins se régalent et se posent 40 000 questions là-dessus. Non, plutôt de l'autre côté, là, regarde. Là. Tu vois,
Alors,
en fait.
Donc, il y a du Kama Sutra.
Il y a une sorte de. Alors, certains l'appellent le Kama Sutra provençal, cette fontaine qui date de la Renaissance. C'est censé représenter les péchés que Saint-Michel doit combattre. Mais en fait, il y a plein de théories parce que ça a fait beaucoup jaser. Les gamins sont morts de rire quand ils comprennent le truc parce qu'on voit quand même deux personnages, on va dire tête bêche, on va dire plus, hein, qui font
qui
des choses.
Qui batifolent.
Mais d'après des historiens très sérieux, ce serait en fait la représentation d'un jeu de cul par-dessus tête, en fait, où on roule comme ça. On laissera les auditeurs deviner de quoi il s'agit et venir à Fort-Calquier pour découvrir. Mais c'est un des hauts lieux symboliques et ésotériques de Fort-Calquier, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
Village érotique, Fort-Calquier.
Un peu aussi, ouais.
Les odeurs, les saveurs, la poésie, l'amour.
Et puis la place Saint-Michel, dans le marché du lundi, c'est un peu la partie, on va dire, bio.
C'est un peu Bioland ici, hein, quand même.
Oui, mais par contre, tu vas voir, quand on sera en bas, alors là, c'est le côté plus grand marché, avec des produits chinois et tout ça. Donc, ce mélange, on parlait de swing, on est en plein dedans, là, aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, France Inter.
Et vous êtes qui ?
Là, je m'appelle Pierre-Alexandre et je suis éleveur de brebis.
Vous êtes un néo.
Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Moi, je suis de banlieue parisienne, à la base, et on est installé à Fort-Calquier depuis 2017. Vous voulez goûter la tome ?
Elle est toute, on dirait de la dentelle.
Oui, et puis vous allez voir, elle est très très goûteuse, et c'est vrai que c'est rare de faire de si belles tomes comme ça.
Merci Aurélie de me faire revenir ainsi un jour de marché à Fort-Calquier. C'est un peu mes Madeleine de Proust qui ressortent là. Merci beaucoup.
Vous l'avez goûté la tome, Raphaël ?
Elle est incroyable.
Merci Pierre-Alexandre.
Avec plaisir.
On va écouter de la musique là-bas.
Eh bien écoutez, que ça flatte vos oreilles.
En tout cas, vous avez flatté le palais. Hein.
Ok, bah merci.
Elle est bonne de chez bonne.
C'est mon épouse qui l'a fait en réalité. Donc,
comment elle
mais je lui transmets. Clémence.
Merci Clémence.
Vous avez vu Aurélie, dès que vous êtes quelque part, il y a beaucoup de gens qui s'agglutinent. En fait, vous devriez faire un pourcentage avec les marchands dans toutes les émissions.
J'ai l'impression d'être en campagne.
Ah, mais c'est génial, on est en campagne, mais en campagne culinaire. Et j'ai l'impression que tout le monde nous regarde un peu étrangement et tout ça. Et dans les rues, là, le marché a moins de place. Donc en fait, on est dans un autre contexte, mais les gens se promènent. C'est quand même une ville patrimonialement extraordinaire, il y a plein de choses à découvrir.
Elle est labyrinthique, on dirait un peu un calendrier de l'Avent. À chaque fois, on ouvre un porche, on ouvre une porte, on a un cadeau.
En fait, il y a des surprises dans une ville de 5000 habitants comme celle-là. Moi, je découvre encore des choses. Là, on voit l'Arlande, on s'éloigne un peu du marché, vous voyez, au niveau du son. Je pense que les auditeurs l'entendent, il y a une acoustique. Moi, j'adore me promener ici, justement, par rapport à l'acoustique. Tout de suite, vous entendez les oiseaux. Tout de suite, vous entendez les murs qui sonnent et qui résonnent. Et on va rejoindre le marché par un petit passage secret. D'ailleurs, on va le rejoindre par une porte qui est la dernière porte qui est restée du Moyen-Âge, en fait.
J'aime bien qu'on soit là tous les trois, Mario, Olivier, Raphaël, à déambuler dans cette cité labyrinthique. On descend vers le couvent. Et alors, Olivier...
Une très belle roseraie là, qui a été créée il y a quelques temps.
Et tout sent bon à Fort-Calquier. Ça sent le jasmin, ça sent la rose, le romarin, le thym, la lavande, évidemment.
Le désir a été un petit peu d'apporter un petit peu toutes les senteurs réunies autour de Fort-Calquier et même à l'intérieur de Fort-Calquier, parce qu'on est toujours à l'intérieur des murs de Fort-Calquier, là. Il y a une expression qui dit « Si tu connaissais les vertus de l'Artémise, tu la garderais dedans ta chemise. Oh. » Je trouve que c'est trop beau, quoi, l'Artémisia.
Et on est arrivé ici... au couvent des Cordeliers. Et alors, ici, nous rejoignent les musiciens. On parle de poésie, on parle de musique. Raphaël Imbert, présentez-nous.
C'est à la guitare Thomas Vériche que j'ai découvert ici. Il est presque chez lui, mais il est de l'autre côté de la Durance. Mais comme on est très tolérant, on l'accepte quand même. Il est d'Entrevennes, qui est l'autre paradis perdu de Haute-Provence, faut le dire.
Thomas, il est assis sur le banc, devant la porte, avec sa barbe et sa guitare. C'est une image d'Épinal.
Ah non, mais c'est il faut prendre des photos. Il a presque une aussi belle barbe que moi, donc je suis très jaloux. Et à ses côtés, il y a Marianne Chemirani. Rendez-vous compte à Fort-Calquier, la présence de ces artistes quand même très importants. C'est Jamshid Chemirani, le père.
Ce qu'on appelle aussi, on les connaît plus sous le nom des frères Chemirani.
Oui, mais c'est pour ça que c'est important de connaître la sœur aussi, justement. Et les sœurs, parce que tous sont des musiciens incroyables, qui sont des hautes figures de la musique perse dans le monde, mais aussi des créateurs à proprement parler, et des gens qui font vivre la région musicalement de toutes les manières possibles et imaginables. Mais il ne faut pas trop le répéter, hein, tout ça. Il faut que les auditeurs de France Inter gardent ces secrets pour eux, sinon il y aura trop de monde, ça va être trop... il y aura trop de partage.
Oui. Voilà. Fort-Calquier, terre de secrets, hein, on l'a dit.
Exactement.
Bonjour Mariam. Enchantée. Ça va ?
Très, 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 très bien.
On va faire de la poésie persane médiévale aussi.
Tout à fait. On s'est mis dans ce coin du couvent parce que là, on est à côté d'un puits et vous allez peut-être entendre la résonance du lieu qui est quand même fantastique.
On s'est éloigné du marché pour être un peu tranquillou.
On commence la journée par une belle berceuse.
On va bercer nos auditeurs. Mais c'est bien, ça va être l'heure de la sieste de toute façon au bout d'un moment.
On est très, très proche de la sieste. Hein.
Et vous chantez sans vos frères ?
Pour une fois, sans mes frères.
Ça vous fait un truc, ça, de chanter sans vos frères ?
Un petit pincement, quand même. Mais franchement, j'ai déjà chanté avec Thomas.
Bonjour, Thomas.
Bonjour.
Un vrai, vrai, vrai plaisir. Et pendant qu'on vous attendait, on a tissé des futurs projets.
Ah, ça sert à ça, rendez-vous Place du Marché, ça sert à ça. Vous étiez infirmière et là, vous allez tout arrêter.
J'arrête tout parce que je n'en peux plus. J'ai 53 ans et j'arrête avant d'être totalement
dégoûtée,
usée physiquement, usée moralement. Il faut vraiment beaucoup d'énergie et je pense en avoir donné énormément, surtout ces derniers temps. Et ce qui me fait très mal au cœur, parce que je le fais avec un petit peu de culpabilité quand même, parce que les demandes sont immenses dans le coin, dans les EHPAD.
Est-ce que vous avez déjà chanté pour les patients ?
Je chante en travaillant, toujours.
C'est vrai ?
Bah oui.
Et bon médicament, ça.
C'est pas mal.
On dit que la musique soigne.
C'est parfait. C'est absolument ça. Et je pense que je vais me diriger là-dedans maintenant. Je vais soigner avec ma voix.
Vous allez faire un peu de musicothérapie, comme
exactement.
On dit ?
Exactement. Je vais tenter une formation, pourquoi pas. Bon, il n'y aura pas de poste, mais je l'offre après. J'offre ma voix.
Il faut créer des postes. Regardez Olivier. Il a créé son petit business, là. C'est devenu l'Occitane.
Ah. Olivier, on pourra se parler tout à l'heure ?
Il peut vous donner des conseils. Ça se trouve, vous êtes la nouvelle gourou de la musicothérapie.
Ah, troc. Pas mal.
C'est pas mal, Fort-Calquier, pour émerger.
Pas mal du tout. La bonne place.
Qu'est-ce que vous allez chanter, Mariam?
Je vais chanter un poème de Saadi. Elle dit « Sans ton amour, où vais-je pouvoir donner tout cet élan d'amour que j'ai ?»
Ben oui, mais c'est logique en même temps, amour mais, en retour. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr,
bien sûr.
C'est vrai, sans ton amour, où vais-je?
Exactement. Tout cet amour que j'ai pour toi, si tu t'en vas, à qui va-t-il être destiné?
À nos auditeurs de France Inter.
Très bien. À vous, auditeurs, Giram Kebar Kani.
Dans les doigts. Hein.
Oh, merci. Merci. Merci.
Non, mais vous l'avez dit, Raphaël, il y a quelque chose de mystique ici.
Cet endroit qui a vécu des histoires spirituelles assez fortes, c'est aussi l'endroit où j'ai eu la chance de jouer, moi, ici, avec, avec les frères, avec le père. Là, retrouver Mariam ici, puis Thomas, qui est mon frère de musique au Provençal. Mais en plus, Thomas est aussi agriculteur, il est aussi charpentier, il fait plein de choses, il bricole, il invente des instruments de musique électronique dans un endroit entre Veynes où, Aurélie, il va falloir que vous... Oui, tu vas y aller, hein. Non, mais entre Veynes, il va falloir y aller l'année prochaine, hein, avec Place du Marché. Hein.
Venez, venez à entre Veynes.
Mariam Chemirani, j'aimerais savoir comment la famille Chemirani est arrivée ici à Fort-Calquier. Vous venez d'Iran. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, mon père vient d'Iran, il est venu dans les années 60. Il est arrivé à Paris, il est venu pour des études de maths, alors qu'il était déjà musicien connu en Iran. Il commençait sa carrière, il avait une vingtaine d'années. Il fait des cours d'ethnomusicologie et à la Sorbonne, au sein de la Sorbonne, en ethnomusicologie, il introduit la musique savante iranienne. Il démarre sa carrière de musicien en Occident dans les années 65-70. Et à un moment donné, il termine sa thèse en ethnomusico. Il la perd, parce qu'à l'époque on n'avait pas d'ordi, il la perd dans le métro. Et puis dégoûté de la ville, dégoûté de tout ça, il se dit, allez, campagne, on atterrit ici. Et on était heureux comme tout dans les années 70. Découvert de la nature, les petits torrents, les... Oh, magnifique. Donc nous, enfants, on baigne dedans, on baigne vraiment, l'accompagne dans ses concerts.
Il vous amène partout, enfants, le papa, tout le monde.
Oui, tout le monde, on le suivait tout le temps. Et j'ai mené mes deux carrières en même temps en fait. Hein. J'ai
infirmière, chanté, musicienne, chanteuse. Ouais. Est-ce que c'est vrai, c'est un aimant ici? On est attiré, on revient toujours à ses racines?
La région est merveilleusement belle et je trouve qu'il y a des gens très chouettes.
C'est parce que, en fait, c'est la terre des poètes, des troubadours.
Exactement. Donc, je me suis retrouvée à chanter de la poésie en occitan très vite.
Il y a un lien entre l'occitan et l'arabe?
C'est marrant parce qu'il y a une personne à Toulouse qui l'a fait sur plusieurs spectacles, de mettre toujours en lien l'Occitanie et l'Iran. Et ça marche très bien.
Je suis en train de me rendre compte que je vais tout faire pour annuler cette émission, parce que si ça continue comme ça, tout le monde va vouloir s'installer à Fort-Calquier. Aurélie, c'est un piège que vous nous avez tendu. En fait, on va tous se coaliser pour que rien ne sorte d'ici, on est d'accord,
hein? On va s'enfermer au couvent.
Hein, voilà, on va s'enfermer au couvent. Mais pour rebondir sur ce que disait Mariam, il y a une théorie, mais c'est pas celle qui est conservée par les historiens, mais je la trouve assez belle, c'est que les Maures viendraient de Maure, justement, sur l'arrivée des Sarrasins, sur tous les combats qu'il y a eu ici. Et en fait, ces statues, un petit peu comme les pénitents d'Aimé, qui est de l'autre côté de la Durance, faisaient des énormes masses de pierres qui sont censées être des moines qui se sont fossilisés parce qu'ils auraient regardé une femme alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et ici, en fait, ces Maures représenteraient justement l'armée sarrasine qui serait pétrifiée à l'heure d'une histoire d'amour entre une Fort-Calquierenne et un Sarrasin. Donc il y a quand même des légendes qui traînent comme ça. Elle est sans aucun doute totalement apocryphe, cette légende, mais elle est quand même assez belle pour être racontée, comme tout ce qui se raconte ici, d'ailleurs.
Oui, elle fait quand même le lien avec tout ce qu'on est en train de vivre.
Complètement, c'est ça. C'est que, quoi qu'il arrive, on est tous ici, chez nous, en fait. Hein. C'est quand même assez...
Et regardez qui arrive.
Oh mon Dieu!
Au loin.
Ah voilà, ils sont là.
Bonjour.
Coucou Elisabeth.
Ça va bien?
Maître carillonneuse, je vous appelle comme ça.
Hein. Oh non, j'ai pas le titre.
On vous a entendu tout à l'heure jouer du carillon dans la citadelle, Elisabeth, et vous nous rejoignez.
Voilà, c'est pour vous dire coucou. Un petit coucou.
Voilà, je vous présente donc Elisabeth qui a fait du carillon tout à l'heure dans l'émission.
Ça va bien?
Très bien. Vous connaissez tous?
Oui.
Vous connaissez Olivier? Olivier Bossan?
Oui, alors Gérard reconnaît bien, mais moi non.
Olivier Bossan, c'est monsieur qui a créé l'Occitane.
Oui, mais ça je connais.
Et Marie-Aube?
Oui, Marie-Aube.
On connaît la librairie et la carte.
On se connaît. Voilà, très bien.
Alors écoutez les amis, maintenant qu'on est tous ensemble, je pense qu'il est temps d'aller boire l'apéro.
Oui, parce que carrément, je pense qu'il est largement...
Et le Bassis Bardouin en particulier quand même.
Et le Bassis Bardouin, avec modération.
Mariam,
vous venez avec nous chez Manu boire l'apéro ou pas?
Bien sûr que je viens avec vous.
On y va tous en farandole?
Allez, on est parti en farandole.
On va tous ensemble chez Manu. Manu, il est pizzaiolo?
Manu, non, il est pas pizzaiolo, c'est le pizzaiolo, et c'est plus que la pizza, en fait. Non, mais alors là, carrément, là, par contre, s'il faut que ça se sache, c'est important, l'endroit où on va aller, il y a un avant et un après le pitchotum. Hein.
On va retraverser cette ville, on va rejoindre Manu, le temps d'écouter un disque, Raphaël, il va falloir que vous le lanciez celui-là aussi. C'est un disque italien, c'est pour faire le lien avec la pizza.
Ah, c'est bien, puis vous allez tester mon accent, donc puis s'il s'agit de Andrea Laszlo, de Simone, Vivo.
Vivo. Ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Mi conviene cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore. Sai che ti conviene finger di non sapere che il mondo è verticale e vai giù insieme alla tua tempra morale che teme di invecchiare e ti dimenticare come si cambia in fretta.
On se refait un petit coup de déambulation dans le marché. Et là, qu'est-ce qu'il y a à gauche, Mario ?
Alors là, au-dessus, presque en face de la librairie, justement, il y a l'ancienne synagogue de Fort-Calquier.
À notre dos, nous avons la co-cathédrale de Fort-Calquier. Il y a peu de co-cathédrales en France. C'est-à-dire qu'elle partage en fait l'évêché avec Sisteron et Fort-Calquier, traditionnellement. Et là, on est sur la place principale. Et c'est vraiment le centre du village, mais aussi le centre du village entre le village médiéval, celui où on était tout à l'heure, et le village plus moderne, plus Troisième République et tout ça. Vous avez la sous-préfecture. Et donc, vous avez une vie aussi administrative, politique, qui est assez dense pour un village de cette taille-là.
Avec le cinéma en face, qui est magnifique.
C'est une ancienne chapelle. Qui a été refondée en cinéma, qui est un cinéma d'art et essai incroyable.
Alors là, on va passer par là, parce que c'est...
Alors là, on se faufile dans les dédales du marché, en contrebas de Fort-Calquier. Ça, c'est de l'ail. Olivier, oui. Je voudrais juste qu'on fasse un petit stop devant l'ail. Je peux vous parler un petit peu ? Bonjour.
Mais par contre, je vois qu'ils vendent de l'huile essentielle.
Oui, voilà, je vends de l'huile essentielle de lavande qui est faite à la Bastide des Garibaux à Saint-Antonin-du-Var.
C'est de la bonne lavande, ça, Olivier ?
Oui, tout à fait.
C'est le monsieur qui a créé l'Occitane.
D'accord, enchanté, monsieur, enchanté.
Vous qui voulez être discret, c'est mort.
Ouais, c'est mort. Maintenant, je ne pourrais plus passer le voir, lui acheter juste,
juste un
une tête d'ail comme ça, discrètement.
Vous avez une montagne d'ail qui forme une espèce d'œuvre d'art. C'est très beau, quoi, cet ail nouveau, violet, rose. Ça sent bon en plus.
On forme des énormes tailles justement pour que ça soit très visuel aussi. L'ail est excellent, les gens se l'arrachent parce que voilà, c'est tellement bon, c'est naturel, c'est bon pour la santé, c'est bon dans les plats, donc on n'hésite pas et on en met en pagaille. Je travaille avec un producteur qui est sur Aix-les-Milles, par contre c'est nous qui le tressons, nous on tresse l'ail, ça fait 30 ans qu'on fait ça, c'est une histoire de famille. C'est ma belle famille exactement qui tresse en fait, ma belle famille, donc ma belle-mère, mon beau-père, ma femme et ma belle-sœur, voilà. Et moi je suis donc du coup le gendre qui participe à l'affaire familiale.
Comment vous vous appelez, monsieur ?
Mon prénom, c'est Morin.
Votre prénom, c'est Morin ?
Ouais, Morin. Et mon nom de l'entreprise, c'est Morin des Morts, comme le personnage mythique du Var qui volait aux riches et qui donnait aux pauvres.
C'est un peu le Robin des Bois du Var.
Ouais, c'est ça. Moi, je suis le Robin des Bois de l'ail.
Merci, Robin des Bois de l'ail. Bye bye. On va par où maintenant ? C'est où chez Manu ?
On va passer par là, sur les raccourcis, là.
Allez, on prend les raccourcis, on y va. Ça suit, là, la farandole ?
Oui, oui, ça va, on est bien.
On suit.
Olivier, Marie-Aube, Raphaël, Mariam.
Tout le monde est là.
Nous sommes tous ensemble sur France Inter et ici à Fort-Calquier, dans les Alpes de Haute-Provence. Et on va boire l'apéro, Raphaël, on est arrivé.
On est presque arrivé, c'est presque la montée suprême, la conclusion de toute notre périple, ça ne pouvait être que là.
On arrive.
Ça rigole pas du tout.
Oh là là.
Bonjour, messieurs, dames.
Bienvenue.
Donc, Yves.
Bonjour, Yves.
Eh bien, enchanté, Aurélie.
Yves, vous, c'est les pastis.
Eh oui, c'est
pastis. Pastis Bardouin.
Henri Bardouin, oui.
Et là, c'est Manu.
Ben, ici, vous êtes à la pizzeria Lo Picciotom. On est heureux de vous accueillir.
Et Marie-Aube, votre fils travaille aussi chez Manu, non ?
Oui, ben oui, c'est une grande famille chez Manu. J'adore qu'il travaille avec Manu, parce que c'est un super patron.
Est-ce que vous voulez boire quelque chose, là ? Café, des pastis à servir, de...
Ça va, Alain ? Hein, on a mis ce qu'il fallait, on a mis les glaçons après. Hein.
Ah ouais, oula, oui, c'est un rituel, là, hein, le Bardouin, il ne faut pas...
Faudra vous faire mettre un glaçon. Hein.
Yves Raffatelli.
Oui.
Là, vous en avez mis du bardouin partout.
C'est la tradition de boire dans ces verres. C'est, puisque le pastis Henri Bardouin doit être dilué beaucoup plus que les autres pastis.
Pourquoi ?
Donc, pour ressentir toutes ces saveurs. Il y a plus de 65 plantes et c'est très important de les retrouver, d'essayer d'en retrouver un maximum.
Vous nous avez amené de la farigoule et oui. Le fameux pastis bardouin.
Alors la farigoule, c'est une liqueur de thym. Alors le thym, on le ramasse au mois de mai. Ce thym va être mis en macération. On va séparer le thym de son infusion, qui va nous permettre de faire la farigoule. Et surtout, on va distiller tout ce thym qu'on va remettre aussi dans la fabrication de la farigoule.
La farigoule, là j'en ai dans mon verre, il faut mettre de l'eau avec ou...
Non, pas du tout, il faut la boire. Non,
c'est la boire comme ça.
C'est un digestif qui se boit généralement après manger, c'est du bonheur.
J'adore ce nom, farigoule.
Farigoule, en provençal, veut dire thym. Hein, la farigoulette.
Farigoulette. Oh, qu'est-ce que c'est bon.
Vous avez vu un peu. Il y a angélique, thym, verveine.
La bouteille est magnifique.
Magnifique, ouais.
Son parfum, sa tenacité et sa floraison printanière ont fait du thym un symbole amoureux populaire. Aussi, autrefois, les galants allaient-ils en accrocher un bouquet la nuit du 1er mai à la porte de la jeune fille qu'ils courtisaient. C'est pour vous, ça, Olivier Bossan.
Ah, c'est des traditions moyenâgeuses. À l'époque, justement, du ramassage du thym, mais souvent, il est accroché comme ça sur des portes.
C'est un peu votre histoire des plantes, ça aussi. Amour courtois, poésie, on offre des bouquets.
Et c'est vrai que c'est une terre, comme vous l'avez dit, Aurélie, de poésie, de musique, beaucoup d'artistes et de traditions, en plus, qui ont ce bonheur, justement, de pouvoir se perpétuer.
Quand on ramasse, nous, quand on va ramasser le thym, c'est la fête aussi.
Raphaël Imbert, vous connaissez Yves Raffatelli ?
Alors, non, mais je suis très heureux de le rencontrer, de rencontrer toute l'équipe, parce que moi, je suis un grand amateur des distilleries de Provence. D'ailleurs, je commence à avoir du mal à le dire, donc
ça prouve que
j'aurais pas dû boire de pastis bardouin tout de suite.
Qu'est-ce que ça veut dire, Yves, pastis ?
Le mot pastis veut dire mélanger, un mélange de plantes.
Comme le jazz.
Bah, c'est du swing.
Ah, Manu, il faut que tu en parles de temps. Ouais.
C'est vous qui avez fait tout ça, la pissaladière, les pizzas, merci. Tout ce qui nous entoure, c'est le banquet d'Astérix version Manu.
Alors là, vous avez une pizza à l'anchois, qui est une pizza qui était la première pizza qu'on a vraiment vue apparaître à Marseille en 1923. Ensuite, vous avez sous vos yeux de la fougasse à l'anchois, parce que là, en fait, ils ont caramélisé. Du coup, on a développé une croûte d'arôme sur la pâte, qui est pour moi une alchimie parfaite, quoi.
Le camion pizza, d'où ça vient, le camion pizza ?
Alors, le camion pizza, c'est une invention marseillaise. Ça a été inventé en 1962 par Jean Méritant. Et c'est devenu une véritable institution, le camion pizza à Marseille. Il faut savoir que la pizza, elle s'est plus développée à Marseille quasiment que dans le nord de l'Italie pendant quelques années.
Comment ça se fait ? Ce sont les immigrés italiens ?
Tout à fait, exactement. La pizza à l'anchois, c'est vraiment le syncrétisme en fait, des cultures siciliennes, napolitaines et italiennes à Marseille.
Non mais c'est vraiment Gérard, m'a mangé des pizzas aussi bonnes.
Merci.
Non, j'ai voilà, des pizzas aussi bonnes, voilà. Non, je te dis, il y a un avant et un après, là, tu vois.
Non,
donc,
c'est vrai, François-Régis Gaudry, il a dit, hein, il vous a décerné la médaille de la pizza, non, un truc comme ça.
Oui, ils sont venus en 2016, en fait, ils ont fait un tour de France de la meilleure pizza. Le camion a été élu, on était deux ex-aequo, meilleur camion à pizza de France.
En plus, on a l'impression que ça fait du bien. C'est déjà très bon, mais en plus, ça fait du bien.
Yves, vous avez la passion de la distillerie quand même. Vous aussi, vous êtes tombé dans la potion magique du pastis.
Oui, alors disons que ça fait déjà 41 ans que je suis dans la société. Je m'en rapproche de la retraite, mais je ne partirai pas volontiers. Monsieur Robert ne veut pas me lâcher comme ça.
Pourquoi vous partez à la retraite, finalement ?
Comme ça, pour faire parler de moi un petit peu.
Il faut aussi expliquer qu'est-ce qui rend ce pastis différent des autres pastis.
Alors, Monsieur Plante.
Les plantes, justement, qui sont à l'intérieur et qui font qu'on n'a pas le goût d'anis immédiat, comme beaucoup de marques de pastis que je ne citerai pas, mais justement, cette sensation d'avoir un mélange de plantes dont on cherche à chaque fois... Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Il y en a plus de 65 hein, qui sont...
65 plantes ?
Plus que ça. Et elles sont toutes, maintenant, pratiquement toutes distillées les unes après les autres. Et on fait des assemblages, mais c'est un travail monstrueux, mais un travail passionnant, parce que quand on distille quelque chose, on attend que ça sorte. Et quand je distille, j'ai toujours 15, 20, 30 verres sur la table. Et je les sens tout au long de la distillation. Les notes que j'ai au début ne seront pas les notes de la fin.
Vous êtes comme un nez, mais c'est ça. Vous êtes comme un nez, mais du pastis.
Oui, en quelque sorte, oui.
Est-ce qu'on se régale?
C'est vrai qu'on se régale.
Merci. C'est une table extraordinaire. Merci, Manu.
Merci beaucoup. C'est un plaisir de le partager.
Comme tout bon banquet d'Astérix, je pense qu'il faut finir par une chanson.
Ah, c'est qui Assurance Touriste là? Ah si, je me sens visé. Je me sens complètement visé. Et en plus, si je comprends bien, il va falloir que j'aille chercher mon saxophone.
Alors, comme c'est un banquet, on va vous chanter une chanson de mariage, en fait. C'est l'histoire de la nouviotte, on l'appelle, la nouvelle mariée.
La nouviotte,
ouais, les noves,
ça veut dire quoi, nouvelle, nouviotte? La nouvelle.
Mariée, la jeune mariée. Ah, la nouvelle. Et donc, cette jeune mariée, lors de sa nuit de noces, ben, son mari, lui, il récite le paternoster avant de se coucher, et il s'endort. Et du coup, elle se retrouve toute seule à s'ennuyer un peu. Elle va finir la nuit avec le cousin. Et le marié, dans la nuit, il se lève, il prend la lampe, il cherche un peu partout, il la cherche, il la trouve pas. Et lorsqu'il ouvre la fenêtre, il y a le cocu qui fait « Cocut, cocut !»
Fort-Calquier, c'est des coquins.
C'est un peu des coquins quand même, hein, Fort-Calquier. Vous avez vu la fontaine, vous avez vu le reste.
Raphaël Imbert au saxophone, Manu Barthélémy au tambourin et à la voix.
Un tanarem pour le nouviot, un tanarem passant la nuit. Amun dis une cambre tout est d'une dunier, ta la la lélo, ta la 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 la. Maïen disait le paternoste, l'un novice est endurmi. La novice de nana de dormir en belu cousin talalalelo, talalalalalala. Quand me luca par la fenestro, gente canta lu cuguiu. Tasse di d'un marido besti, cumulo la sagita leu, talalalelo, talalalalalala.
Merci à tous et à très bientôt sur France Inter ou ailleurs.
Cette émission a été réalisée par Charles de Cilia.
C'est la super Marion Philippe qui a préparé cette émission, assistée de Julia Martin, ma stagiaire.
Merci Marion.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter.
Lundi, vous retrouvez Antoine Lee à Follembray dans l'Aisne. Merci Fort-Calquier, bravo.